Vous allez écouter Quartier Libre, une émission réalisée par les bénévoles des centres sociaux et culturels du Tricadou et de Ville-Marie en partenariat avec le Commissariat Général à l'Égalité des Territoires, la Communauté d'Agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin et la Ville de Carpentras. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Quartier Libre de ce mois d'octobre. Salut Théo.
Salut Florian.
Aujourd'hui, au sommaire, on va tout d'abord commencer par Thierry Pétrone, que l'on aura en interview, référent adulte à l'espace Ville-Marie. Il va nous parler notamment d'un projet d'aménagement, les Bois de Lubac, un projet de création d'une sculpture de totem qui viendra agrémenter l'espace central de la cité du Bois de Lubac. Tu as aussi eu en interview, Théo, un habitant, Robert, de l'atelier 113, donc situé juste à côté de Ville-Marie. Il nous donnera un petit peu son sentiment, ses impressions et son avis sur le projet. On aura aussi Axel Schuller, technicien des Compagnons Bâtisseurs Provence. Il nous présentera notamment la structure. Et puis, on a eu la semaine dernière une matinée spéciale comment adapter son logement à la perte de mobilité. On y a participé. Il nous explique tout ça dans cette interview que l'on retrouvera dans l'émission Quartier Libre. Et puis, donc, on l'aura aussi concernant les Bois de Lubac, puisqu'il participe aussi à la création de cette sculpture et il forme un petit peu, il guide un petit peu les habitants. On aura aussi Lucille Léonard, formatrice et coordinatrice de la plateforme linguistique du Tricadou, avec la présentation des ateliers de français qui sont animés par d'ailleurs des bénévoles, ainsi que des ateliers d'illettrisme avec ceux qui ont des difficultés à l'écrit notamment. On aura aussi Philippe Brun pour les formations NUMA. Il est directeur de NUMA, Philippe Brun. Il nous présentera un petit peu toutes ces formations qui sont surtout des actions aussi à but d'insertion par l'activité économique et aussi par la formation. Voilà entre autres les interviews que vous allez retrouver. Il y aura aussi Chloé et Caroline, animatrices intergénérationnelles et intersecteurs et agents de développement aussi social et local que l'on retrouvera, qui nous parlera d'un sujet sur les seniors avec des temps de rencontre et puis le programme du mois d'octobre, notamment du Centre social et citoyen au Tricadou. Et on parlera aussi de l'agenda de Ville-Marie de ce mois d'octobre. Voilà Théo, par quoi on commence tout de suite ?
On va commencer par Thierry Pétrone, puisque l'autre fois je me suis rendu à l'espace Ville-Marie. Je rappelle donc qu'il est référent adulte à l'espace Ville-Marie, Thierry Pétrone. Et il nous a parlé du projet d'aménagement des Bois de Lubac, puisqu'il travaille dessus déjà depuis plusieurs mois. Donc on a parlé ensemble du projet. On va l'écouter tout de suite. Thierry Pétrone est avec nous. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Vous êtes référent adulte à l'espace Ville-Marie. L'idée, c'est de faire des sculptures, des totems pour la réhabilitation du bois de Lubac. J'aimerais savoir comment vous est venue l'idée de ce projet.
Alors, on est parti d'un constat avec le bailleur social, Grand Delta Habitat, que cette place était nue, que les gens avaient du mal un peu à se l'approprier. Donc, on était parti sur un projet qui date d'il y a 2 ans, mais qu'on n'a pas pu mettre en œuvre avant, de mettre des totems. Qui vont une vague de totems, ça fera comme une vague de totems, qui vont symboliquement représenter la mixité, l'entraide, le mieux vivre ensemble. Et donc, avec ces totems-là, on va aussi remettre des bancs avec les habitants pour les emplacements au niveau de cette place-là. Donc, voilà, l'idée générale, c'était de redonner une vie différente. Et là, on est parti sur l'aspect artistique, pour faire participer les habitants à la création de ces totems.
Alors bien sûr, on le précise, Delta Grand Habitat participe à ce projet. Qu'est-ce qu'ils vous apportent concrètement ?
Alors, ils apportent une logistique au niveau du matériel et des matériaux et surtout de la pose des totems. Ensuite, on travaille avec les compagnons bâtisseurs qui vont travailler avec les habitants pour peindre et dessiner sur les totems, en faire des œuvres à part entière. Et Ville-Marie, qui est là en soutien comme animation au niveau des habitants.
Alors les partenaires, il y en a plusieurs. Vous pouvez peut-être nous les citer, les partenaires qui sont donc présents à ce projet.
Alors on a Grand Delta, puisque c'est le bailleur social local. Ville-Marie, parce qu'il est maître d'œuvre aussi, et c'est sur son territoire. On a les compagnons bâtisseurs comme intervenants. On a une société KDM aussi qui participe à la fourniture de tous les matériaux. Donc ils voient des matériaux, du bois qui est imputrescible, donc tout ça c'est pour durer dans le temps. Et puis la mairie pour une partie d'un financement qu'on appelle un FSIH, Fonds d'initiative soutien aux habitants, que les habitants vont mettre en place, ont commencé à mettre en place pour pouvoir financer une partie du projet. Je rappelle que ce projet il est quand même aux alentours de 3000 euros, donc voilà, ce n'est pas rien non plus.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser qui est investi dans la construction notamment des totems ?
Alors, la construction des totems, il y aura principalement les habitants qui vont le faire avec les compagnons bâtisseurs. et le centre social Ville-Marie.
Voilà, je pense qu'on a bien détaillé le projet. Peut-être vous voulez rajouter quelque chose?
J'espère que les habitants vont s'impliquer, vont trouver l'idée assez géniale. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on ne peut pas trop se projeter, il n'y a que des plans de fées et des dessins, mais que les parents et les enfants puissent vraiment participer in situ, c'est-à-dire que ce sera sur place aussi, la mise en place, à la finition, à écrire pas mal de choses, à faire des dessins dessus, tout ça se fera sur place à partir du mois d'octobre, puisque c'est prévu pour commencer réellement les ateliers sur la place au mois d'octobre.
Très bien, en tout cas Thierry Pétrone, je vous remercie. Je rappelle, vous êtes donc référent adulte à l'espace Ville-Marie et vous avez participé donc à l'émission Quartier Libre dans le cadre de la sculpture des totems pour la réhabilitation du bois de Lubac. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous écoutez Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble. Voilà pour l'interview de Thierry Pétrone, Théo. À suivre, nous allons parler du projet d'aménagement Les Bois de Lubac, avec notamment la création d'une sculpture de totem qui va venir agrémenter l'espace central de la cité du Bois de Lubac et qui nous recevons d'ailleurs dans cette interview, Théo.
Axel Schuller, le technicien des Compagnons Bâtisseurs Provence, lui, on va dire qu'il apporte son expertise puisqu'ils travaillent ensemble avec Ville-Marie, donc autant vous dire qu'il connaît très bien son sujet.
Et juste après on aura Robert, donc habitant notamment à côté autour de Ville-Marie, et qui participe à l'atelier 113 et qui nous donnera son sentiment et ses impressions et son avis sur le projet. On les écoute tous les deux.
On est avec Axel Schuller, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le technicien des Compagnons Bâtisseurs Provence et on parle ensemble avec vous du projet d'aménagement des Bois du Lubac, ce projet de création d'une sculpture de totem qui va venir agrémenter l'espace central de la cité du Bois de Lubac. Mais avant ça, j'aimerais que vous fassiez une petite présentation des Compagnons Bâtisseurs Provence.
Les Compagnons Bâtisseurs sont une association nationale qui a été créée à la base à la fin de la guerre pour la reconstruction, où les gens venaient s'entraider pour reconstruire. Et petit à petit, ça s'est déplacé et c'est devenu une association plus conséquente qui lutte contre le mal logement au sens large. Donc ça peut aller de conseils de juristes à l'intervention de techniciens au domicile de certains locataires ou propriétaires occupants.
Et vous, quel est votre rôle au sein de l'association ?
Donc nous, animateurs techniques, comme je vous disais, on intervient chez des familles pour faire des diagnostics techniques du logement et pour les accompagner sur des petits travaux. Nous faisons aussi, donc en lien avec les centres sociaux, comme ça va être le cas sur l'animation de rendre accessible le logement à la perte de mobilité, on travaille avec les centres sociaux pour faire des animations collectives qui se font aussi bien en pied d'immeuble ou ça peut être chez un habitant en fonction des besoins. Mais ça reste des animations autour du cadre de vie.
Est-ce que maintenant vous pouvez nous expliquer comment ça se passe le projet de sculpture des totems de votre point de vue ?
Donc dans notre partenariat avec les centres sociaux, ils nous ont sollicité pour ce projet-là. Il se trouve que c'est dans nos compétences et donc c'était une très bonne chose. Ça s'est mis en place petit à petit avec le centre social et le bailleur qui eux avaient un cahier des charges à nous transmettre. Et en fonction de tout ça, on a fait des réunions d'information sur lesquelles on s'est calé pour monter cette animation en trois séances. Une première séance où il y aura une sous-couche et le travail de fondation qui sera fait donc par nous techniciens et l'entreprise de menuiserie. C'est une séance auquel le public ne participera pas pour des contraintes techniques et de sécurité, du point de vue et la pertinence de la séance. Les autres après, par contre, là, du monde va être drainé par le centre social, notamment les enfants. Donc on a pris soin de faire ça mercredi, comme ça les enfants étaient disponibles. On aimerait que ça se fasse en extérieur si le temps le permet. Ça va, la séance se déroulera, que le public arrivera, on expliquera le but de tout ça pour ceux qui sont pas au courant et on leur expliquera comment ça va se passer et comment mettre en peinture. Après on passera à la pratique. C'est pas que ce soit compliqué, mais c'est important d'avoir les techniques de base de la peinture pour pouvoir les reproduire par la suite. Donc voilà, on a plusieurs points d'apport sur une seule petite animation. Et ça permet au public, là en l'occurrence, de repartir avec des bases techniques de peinture et d'avoir œuvré pour, pour leur environnement.
Et vous, l'objectif de votre présence, quelque part, c'est pour apporter une expertise, en quelque sorte ?
Absolument, on est là pour ça. On vient accompagner, on vient cadrer, si besoin, baliser le chemin de manière à ce que les habitants puissent eux faire sans avoir peur de se tromper. Et nous, effectivement, on amène les petites connaissances, le savoir et le savoir-faire si besoin.
Alors donc, bien sûr, le projet de sculpture des totems, c'est le sujet dont on parle. Et ces totems, à quoi ils ressemblent ? Est-ce que vous pouvez nous détailler ?
Donc là, ça va être très simple. La contrainte première du bailleur, c'était de faire quelque chose qui soit sécurisé, donc auquel les enfants ne pourraient pas grimper, s'accrocher, donc ça limitait beaucoup dans les formes. Nous avons opté pour une vague de 5 totems. Donc cette vague, ça va être des totems verticaux, rectangulaires, de 20 cm sur 20 cm, qui feront à peu près 1,50 m, 1,80 m de haut. Ils seront disposés les uns derrière les autres à la ligne, de manière à former une petite vague. Ces totems, ils seront ensuite peints de couleurs un peu chaudes, un peu vives. Ce sera une séance et il y aura une autre séance sur laquelle les participants viendront décorer les totems. Ça va se faire aussi bien avec des petits pochoirs en forme d'étoiles, de lune, de soleil. Et ils pourront aussi inscrire leur prénom de manière à s'investir encore plus dans ce projet. Donc le visuel qu'on a préparé en amont, esthétiquement sort assez bien, ça permet d'élancer un peu la sculpture. En donnant une impression de mouvement et la couleur va bien.
Au niveau des couleurs, est-ce que c'est vous qui leur conseillez quel type de couleur ils peuvent mettre en avant ou alors est-ce que c'est eux-mêmes qui se disent je vais prendre cette couleur-là par exemple ?
Ben là, il se trouve que c'est le centre social qui nous a imposé entre guillemets les couleurs mais qui souhaitait travailler avec des couleurs bien précises. D'une part parce qu'elle correspond avec l'environnement, on va dire avec les murs, les volets, les cadres de fenêtres, et dans un souci esthétique, amener aussi, je pense notamment au rouge et au jaune, de la gaieté.
Peut-être vous voulez rajouter un dernier mot pour conclure, Axel Schuller ?
J'ai beaucoup de chance, je suis ravi de pouvoir mener des animations comme celle-ci. Je pense et je trouve que c'est un plus pour les habitants, les bénéficiaires, d'avoir accès à ce genre de petites animations et de prendre part à ce qui se passe dans leur environnement.
Merci beaucoup en tout cas Axel Schuller. Je rappelle, vous êtes donc technicien des compagnons Bâtisseurs Provence. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et sur RTVFM en ce moment, je suis avec Robert à l'atelier 113. Bonjour Robert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Robert. Alors je tiens d'abord à vous remercier de parler au micro d'RTVFM dans le cadre de l'émission Quartier Libre pour le projet d'aménagement Les Bois de Lubac, pour notamment le projet de création d'une sculpture de totem qui va agrémenter l'espace central de la cité du Bois de Lubac. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée ?
Oui, bien sûr, j'estime que c'est une bonne idée, j'estime que c'est aussi une très bonne initiative de la part de Ville-Marie. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage, puisque j'en profite, puisque je passe sur vos ondes, j'en profite pour rendre hommage à Thierry Pétrone, parce que l'autre jour, il me l'a avoué, il travaille sur ce projet depuis plus de 2 ans. Après, pour des raisons X et Y, que ça ne s'est pas concrétisé. Là, j'ai bon espoir et je suis même confiant que ce projet il va se faire. D'abord, il va se faire avec les compagnons Bâtisseurs Provence. Là aussi, il faut les saluer. Ville-Marie, bien sûr, qui s'investit dans ce projet. Et j'en profite une nouvelle fois à dire que quand même, Ville-Marie, ils font des grands projets, Thierry Pétrone et bien sûr toute l'équipe d'une manière générale font des projets à chaque fois et je pense que rien que pour ça on peut les féliciter quoi. Mais après sur le projet en lui-même, vous en pensez quoi ? De mon point de vue, auparavant j'ai été charpentier. Bon maintenant je suis retraité, ça fait plus de 5 ans, bon je me rends compte que ça en vaut la peine de faire ça quoi. Ça vaut la peine de faire ce projet non seulement pour les habitants, parce que je suis qu'ancien, si vous voulez, que les habitants, il faut les investir, il faut qu'ils travaillent ensemble, parce que moi, ce que je comprends derrière ce projet, c'est ça, c'est qu'on puisse être ensemble, qu'on puisse être solidaires ensemble, qu'on puisse faire des projets ensemble, qu'on puisse s'accompagner ensemble, et Ville-Marie, ils font office d'accompagnateur, et quelque part, ils font un travail voilà, formidable, quoi, de ce point de vue-là. Après, moi, encore une fois, de mon point de vue, c'est une bonne initiative. On va pouvoir travailler ensemble et en tant qu'ancien charpentier, je peux vous confirmer que oui, c'est un sacré boulot qui nous attend, mais en même temps, on le fait pour le bien des habitants et pour le bien de tout le monde. Voilà. Alors moi, bien sûr, je suis investi dans ce projet parce qu'à chaque fois, quand je fais un projet, moi, j'y vais à 200%. Les autres habitants du quartier, ils sont totalement prêts, tout comme moi, à foncer sur le projet. Après, il y en a qui sont un peu hésitants, mais c'est normal. À chaque nouveau projet, on est un peu hésitant. On ne sait pas si ça va fonctionner, ça va marcher. Il y a toujours un risque, quoi. Il y a toujours un risque. Donc après, le risque, on va le faire ensemble, ce risque, et on va se donner les moyens pour réussir. Voilà ce qu'on va faire. Et merci beaucoup, Robert. Peut-être vous voulez rajouter un dernier mot. Ben, tout d'abord, merci à vous, parce que grâce à vous, je passe sur vos ondes pour expliquer concrètement comment ça va se dérouler, quoi. Bon, je suis qu'un simple habitant, bien sûr, hein, mais je vous remercie quand même. Moi, je suis prêt à chaque fois à faire des nouveaux projets ensemble avec Ville-Marie. Voilà. Après, il y aura certainement d'autres projets à l'avenir. Moi, je suis prêt à chaque fois, quoi. Moi, je suis prêt, je suis prêt à aller de l'avant, à, si possible, à prendre des initiatives. Moi, je suis totalement opérationnel, quoi. Voilà, totalement opérationnel. Très bien, bon, merci beaucoup, Robert, d'avoir parlé au micro d'RTVFM à l'atelier 113, donc près de Ville-Marie. Merci à vous de m'avoir fait passer sur vos ânes. Très sympa et longue vie à RTVFM.
Vous écoutez Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble. Toujours avec Axel Schuller que l'on va retrouver encore une fois en interview. Cette fois-ci, on va parler comment adapter son logement à la perte de mobilité. On a participé à la matinée du 3 octobre, donc qui était justement l'occasion de faire le point avec les habitants pour pouvoir trouver des solutions, adapter son logement quand on malheureusement on a des difficultés pour se déplacer. Donc Axel Schuller, technicien des Compagnons Bâtisseurs Provence, va nous présenter un petit peu cet atelier.
Alors on est ensemble en ce moment à l'atelier 113 près du centre social et culturel Ville-Marie pour une matinée qui s'appelle « Adapter son logement à la perte de mobilité ». Vous pouvez peut-être nous expliquer le but de cette matinée, c'est pour rendre service à ces personnes.
Effectivement, c'est en concertation avec le centre social, il nous a paru important de faire une animation sur le sujet d'adapter son logement à la perte de mobilité. Parce que c'est des sujets du quotidien qui nous touchent tous. Et la sensibilisation à ces sujets-là, elle ne se fait pas forcément dans la vie de tous les jours. Donc c'était important pour nous d'avoir ce temps-là.
Par exemple, pour les aider, faire en sorte qu'ils ne lampent automatiques, par exemple, ou histoire que ce soit beaucoup plus simple pour eux.
Effectivement, on a la chance aujourd'hui d'avoir les moyens et la technologie pour rendre certains mouvements plus faciles et pour se soulager. Donc c'est l'occasion d'en profiter et d'avoir quelques connaissances à ce sujet. Donc effectivement, on peut présenter différents types d'outils qui nous permettront d'accompagner le quotidien sur des petits mouvements comme aller dans sa salle de bain, monter dans sa douche. Et ça peut être aussi des temps d'échange pour avoir les informations, pour adapter le logement sans forcément de grosses modifications, mais des petites choses qui nous changent la vie, qui font que les contraintes sont moindres. Je pense à rehausser un canapé pour se relever plus facilement ou se baisser plus facilement, etc.
Et en général, quand vous faites des ateliers, quelles problématiques reviennent assez régulièrement ?
Ben sur ce cas de la perte de mobilité, on a effectivement la contrainte de la baignoire ou de la douche. Chez bon nombre de bénéficiaires. Et donc on est souvent amené avec eux en concertation avec des ergothérapeutes et on est amené à poser du mobilier pour pouvoir les aider. Souvent les douches, les WC, les plans de travail, les cuisines, les robinets, vraiment les pièces et les lieux où on est au quotidien, quoi.
La dernière fois quand vous avez fait un atelier, par exemple, sur quel sujet vous les avez aidés ?
Il se trouve que récemment, nous avons fait un atelier sur les risques domestiques. Là encore, ça peut être large, mais ça nous permet de tout survoler de manière grossière pour informer, pour avoir de matière à échanger, aller sur des points précis, des axes de travail qui nous concernent plus ou moins tous. Sur l'exemple des risques domestiques, ça peut être le danger des casseroles, de l'eau bouillante, des poignées qui peuvent être accessibles aux enfants. Si c'est des animations qui vont toucher de manière plus générale le cadre de vie et les déchets, ça peut être l'implantation de nouvelles poubelles, enfin ça peut être large.
Merci beaucoup Axel Schuller, donc technicien, je rappelle, pour les Compagnons Bâtisseurs Provence. Merci beaucoup et puis à très bientôt.
Au revoir, merci.
Vous écoutez Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans l'émission Quartier Libre. Bien sûr, on est toujours en compagnie de Florian, dans un instant, on va parler de l'Outricadou, mais avant ça, on va parler de l'agenda Ville-Marie. Alors, concernant l'agenda, le mercredi 16 octobre, la gare numérique vient vous voir, en effet, puisque le camion gare numérique sera présent dans la cité, dans le cadre du concours Intercité, qui est co-organisé d'ailleurs par la mission locale du Comtat Vénessin. En tout cas, la gare numérique sera présente dans la cité pour faire une démonstration des machines et en même temps pouvoir parler du projet concours créatif qui va durer jusqu'au mois de novembre. Ensuite, le lundi 14 octobre, le check-up santé, où d'ailleurs la radio RTVFM sera présente pour l'occasion toute la journée. Vous allez tester durant cette journée votre vue, l'audition, la mémoire, mais aussi la glycémie avec des professionnels de santé qui seront présents. Atelier bien-être, ça c'est tous les vendredis, donc le vendredi 11 octobre, 18 et 25 octobre, atelier bien-être pour la gestion du stress ainsi que pour la relaxation. De 14h jusqu'à 16h au foyer de l'Âge d'Or, l'atelier est gratuit mais avec inscription à l'accueil, c'est obligatoire, donc n'hésitez pas à vous inscrire et pour ça il faut prendre contact directement avec l'espace social et culturel Ville-Marie. Donc voilà, concernant l'agenda de Ville-Marie. Donc comme je le disais, Tricadou, on va en parler dans un instant. Mais avant ça, on va faire une pause musicale avec QQN, son morceau qui s'appelle « Ça ira mieux ».
C'est quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'a dit et ça ira mieux, la roue va tourner. T'en fais pas petit, ça va s'arranger. Suffit d'attendre encore un peu. Suffit d'y croire, la vie n'est qu'un jeu. Et ça ira mieux, faut te relever. Y'a des hauts, des bas, t'es pas le seul comme ça. Suffit d'attendre encore un peu. Et ça ira mieux. Et ça ira mieux. Et ça ira mieux. N'écoute pas les gens, marche droit devant. Te retourne pas, y'a rien là-bas. L'avenir est à toi, continue comme ça. Encore une dernière fois, vas-y, écoute-moi. Ça ira mieux, si t'es tombé si bas. C'est pour aller plus loin, accroche-toi à tes rêves. Fais confiance au destin, t'inquiète, à deux on ira très loin, loin. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Et ça ira mieux. Et ça ira mieux. La roue va tourner, t'en fais pas petit, ça va s'arranger. Suffit d'attendre encore un peu. Suffit d'y croire, la vie n'est qu'un jeu. Et ça ira mieux, faut te relever. Y'a des hauts, des bas, t'es pas le seul comme ça. Suffit d'attendre encore un peu. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Et ça ira mieux. Et ça ira mieux. We'll be right back.
Vous écoutez Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble. De retour pour l'émission Quartier Libre, deuxième partie de cette émission. Nous allons maintenant parler de Chloé, agente d'accueil et agente de développement social et local, et de Caroline, animatrice intergénérationnelle et intersecteur. On va parler de l'accueil généraliste des Amandiers du Centre social et citoyen L'Outricadou. Donc avec ces deux personnes, on parlera d'un sujet sur les seniors avec des temps de rencontre. On parlera aussi du programme du mois d'octobre avec la présentation aussi des ateliers. On les écoute.
Aujourd'hui, RTVFM se trouve à l'accueil généraliste des Amandiers du Centre social et citoyen L'Outricadou de Carpentras. Et je suis en présence de Chloé. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Alors Chloé, vous êtes agent d'accueil et agent de développement social et local. Et je suis également avec Caroline. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Et Caroline, vous êtes animatrice intergénérationnelle et intersecteur. Et j'aimerais justement vous parler aujourd'hui du sujet qui nous intéresse, ce sont les seniors.
L'Outricadou, donc on développe ce secteur beaucoup depuis le début d'année 2019. On propose des temps de rencontres, souvent autour d'un café, donc des pauses café avec des thématiques. Et on travaille sur trois grands axes qui sont l'accès aux droits pour les seniors. Le deuxième axe, c'est les loisirs des seniors. Et le troisième axe, les vacances des seniors.
Merci Chloé. Alors Caroline, vous en tant qu'animatrice intergénérationnelle et intersecteur, quel est votre rôle justement auprès des seniors ?
Alors peut-être juste en amont, je voulais quand même mettre en avant le fait que les seniors se sentent de plus en plus isolés et que ça a été vraiment une demande des habitants de développer des activités spécifiquement pour eux. De manière à rompre justement cet isolement. Mon rôle particulièrement, je vous dirais que c'est en binôme avec Chloé, d'être dans le lien, dans l'écoute et dans l'échange. Une simple présence, une simple écoute est déjà énorme pour ces personnes. Encore une fois, j'insiste peut-être, mais c'est une réalité qui se retrouve face à souvent isolés dans leur petit appart ou grande maison, à savoir qu'on ouvre vraiment à toute personne de Carpentras et ou habitants des villes de la Cove. Nous, au niveau de Tricadou, on a trois accueils principaux, notamment au centre-ville, un aux Amandiers et un également au Pou du Plan. Toutefois, on reste joignable à la fois Chloé et moi sur un téléphone portable au 06 18 35 86 08. Et puis sinon, encore une fois, vous pouvez venir à n'importe quel accueil. On vous expliquera, donnera des informations pour nous trouver, pour vous faire partager les programmes de chaque mois.
Peut-être dire un petit mot sur les inscriptions. C'est sur inscription ?
Alors oui, bien sûr. Pour participer à nos ateliers, donc il faut bien évidemment être adhérent au centre social. L'adhésion, c'est une adhésion qui coûte 5 euros quand on est seul. 10 euros quand on est plusieurs. C'est une adhésion qui est à l'année, donc de janvier à décembre. Et après, c'est sur inscription auprès de ou Caroline ou de moi-même directement, où on nous appelle, où on se rencontre pour faire les inscriptions sur le mois. Les inscriptions se font par contre sur le mois. Et les ateliers que l'on propose de bouger mieux et de mémoire, ça c'est sur la continuité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs séances. Donc il faut s'engager sur plusieurs séances quand même, ça demande un certain engagement.
Merci Chloé. Caroline, j'aimerais connaître les activités du mois d'octobre qui vont se dérouler, donc toutes les animations concernant les seniors.
Donc je te dirais, comme mettait en avant Chloé, il y a une continuité sur les activités, les ateliers comme Bouger mieux ou les ateliers mémoire. Se développera également un atelier de sophrologie un peu plus tard dans le mois d'octobre. Et puis en partenariat avec la COV, on propose aux seniors en octobre de faire un bilan de santé à la fois au niveau à la CPAM, donc de les accompagner sur Avignon. Encore une fois, des personnes isolées qui des fois ne prennent peut-être moins le temps de prendre soin d'eux. Et puis voilà, les problèmes liés à la vieillesse, je dirais, ça reste très intéressant d'aller faire un petit check-up santé. Et également, en association avec Ville-Marie, nous proposons du coup de participer au forum check-up santé le 14 octobre. À savoir qu'on pensera la semaine du 7 octobre, c'est la semaine du goût et la semaine bleue. Du coup, on pensait notamment faire une sortie intergénérationnelle avec éventuellement les centres de loisirs ou les familles du centre social. Et encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas à venir simplement vous renseigner. Il n'y a pas d'engagement spécifique. si ce n'est juste participer et partager un bon moment. Comme mettait en avant Chloé, on essaye d'organiser à la demande des habitants une sortie mensuelle et du coup il est prévu pour octobre la sortie au Sainte-Marie-de-la-Mer avec visite du marché le matin, un petit resto en bord de mer et la promenade sur le Tiki qui est un petit bateau sur le Rhône. Merci.
Donc ça, ce sont les animations du mois d'octobre. Énormément de choses effectivement qui vont se dérouler, qui sont proposées à nos seniors de Carpentras. Mais est-ce que c'est vraiment tout Carpentras, tout quartier? Peut-être une petite précision, Chloé?
Oui, alors c'est vrai que nous, le centre social, on est sur les quartiers principaux de la ville, mais on est là aussi pour répondre à un besoin. On est sur une création de secteur. Nous, l'important, c'est que les gens puissent se rencontrer. Après, toute personne qui peut y trouver son compte peut venir, en tout cas, au moins prendre les renseignements. Et puis nous, on aiguillera pour savoir si ça y plaît ou si ça convient ou si ça ne convient pas.
Peut-être un petit rappel concernant les contacts éventuels, l'endroit où l'on peut trouver la brochure et éventuellement le numéro de téléphone.
Donc tous les programmes sont disponibles dans les accueils du centre social au Tricadou, donc à savoir l'accueil du centre-ville au 35 rue du Collège, l'accueil du Pou du Plan au bâtiment C rue Jacques Cartier et l'accueil des Amandiers qui se situe au bâtiment F3 Charles de Foucault. Donc vos animatrices sont Chloé et Caroline et vous pouvez nous joindre au 06 18 35 86 08.
Merci Chloé, je rappelle que vous êtes agent d'accueil et agent de développement social et local du Centre social et citoyen Louk Tricadou de Carpentras. Merci également à Caroline, animatrice intergénérationnelle et intersecteur également du Centre social et citoyen Louk Tricadou de Carpentras. Merci mesdames.
Merci d'être venus.
Venez nombreux.
Vous écoutez Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Et oui, puisque vous êtes sur la radio qui est RTV-FM, qui diffuse Quartier Libre, l'émission qui donne la parole aux habitants et habitantes des quartiers de Carpentras. Alors on poursuit cette émission avec maintenant Lucille Léonard, qui est formatrice et coordinatrice de la plateforme linguistique du Tricadou. Et en même temps, elle fait des présentations des ateliers de français qui sont animés par des bénévoles du Loup Tricadou. Également atelier illettrisme avec des difficultés avec l'écriture notamment. Elle va nous en dire un peu plus maintenant.
Je me trouve en compagnie de Lucille Léonard qui est formatrice et coordinatrice de la plateforme linguistique. Bonjour.
Bonjour.
Lucille, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être la plateforme linguistique au sein du centre social Loup Tricadou et en quoi consiste aussi l'atelier d'illettrisme?
Alors sur la plateforme linguistique, nous avons des ateliers sociolinguistiques, donc des ateliers de français ouverts à tous. Ce sont des ateliers mixtes qui sont gratuits et qui sont animés par des équipes de bénévoles sur les trois quartiers, sur le centre-ville, le Pou du Plan et les Amandiers, qui vont démarrer le 30 septembre et qui fonctionnent donc toute l'année en respectant les vacances scolaires et jusqu'à juin. Voilà. Sur cette même plateforme linguistique, nous avons l'atelier de lutte contre l'illettrisme que j'anime, où ici, nous aurons des personnes qui viennent surtout parce qu'elles ont des difficultés avec l'écrit. Donc, on va travailler essentiellement l'écrit. Les ateliers sociolinguistiques sont réservés sur l'oral, la communication, la capacité à se débrouiller dans la vie quotidienne.
Quel est le public le plus touché, qui a le plus besoin en tout cas de ces ateliers d'illettrisme et de la plateforme linguistique?
Alors sur les ateliers sociolinguistiques, donc, c'est adressé à des publics étrangers, d'origine étrangère, qui souhaitent s'installer donc en France, qui sont en recherche d'emploi, ou des pères, mères de famille, des jeunes qui ont besoin de communiquer pour pouvoir assumer plusieurs responsabilités et démarches dans leur vie de tous les jours. Sur l'atelier de lutte contre l'illettrisme, donc des hommes, des femmes qui ont soit été scolarisés, qui ont été en décrochage scolaire, qui sont en reconversion professionnelle, qui ont vraiment des difficultés avec l'écrit, qui ont besoin de reprendre confiance et de se réapproprier un petit peu l'écrit, le support écrit.
Qui anime l'atelier? L'atelier, est-ce que vous pouvez nous présenter comment il se passe?
Alors, c'est plusieurs séances par semaine. On a donc sous format de 2 heures à chaque fois, en matin ou en après-midi, sur les lundis, mardis et jeudis. C'est moi qui l'anime, donc cette fois j'ai la casquette de la formatrice. Et donc sous forme d'atelier d'écriture, sous forme de travail individualisé sur l'écrit, que ce soit la grammaire, la conjugaison, savoir écrire un mail, une lettre. On utilise aussi beaucoup l'outil informatique pour pouvoir se familiariser et puis être un peu plus autonome.
Très bien. Et donc, comment peut-on rejoindre l'atelier? Où se trouve-t-il? Et puis, peut-être, on peut insister aussi que c'est mixte, gratuit, et que vous avez aussi des cours en soirée.
Voilà, on va tâcher d'ouvrir un atelier en soirée pour les personnes actives qui ne peuvent donc participer aux ateliers qui ont lieu en journée, essentiellement sur les horaires 9, 11 et 14, 16 heures. Donc, les ateliers sociolinguistiques, il suffit de venir s'inscrire au centre social Loutricadou, d'être adhérent au centre social, de remplir une fiche d'inscription. On fait passer un petit test à l'écrit pour voir le niveau en français en entrant. Et pour l'atelier de lutte contre l'illettrisme, les personnes viennent s'inscrire. Elles passeront aussi un petit test de niveau avec moi. Et ensuite, elles participeront une fois ou deux fois ou trois fois suivant leur disponibilité et leurs besoins.
Merci Lucille Léonard. Je rappelle que vous êtes formatrice et coordinatrice de la plateforme linguistique au sein du Centre social et citoyen Loutricadou. À très bientôt. Vous écoutez RTV FM, nous sommes toujours au cœur de votre émission Quartier Libre et on va tout de suite écouter l'interview de Asna. Asna, elle est du Centre social et citoyen Loutricadou, elle est agente d'accueil et animatrice d'activités. Elle va nous parler un petit peu du point d'accès au droit et à l'égalité, PADE. Elle nous parlera notamment santé, logement et scolarité. Nous trouvons avec Asna, qui est agente d'accueil et animatrice d'activité au Centre social et citoyen Loutricadou. Bonjour Asna.
Bonjour.
Alors Asna, vous allez nous présenter qu'est-ce que le PAD, le point d'accès au droit et à l'égalité.
En fait, c'est tout ce qui est droit commun, qui s'adresse à tout public, que ce soit au niveau de logement, que ce soit au niveau de santé, ou même les droits des étrangers.
Alors, quels sont justement peut-être les droits sociaux, tout d'abord? Vous avez parlé tout à l'heure de santé, en antenne, santé, logement, scolarité, est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus?
Alors, tout ce qui est santé, c'est tout ce qui est accès aux soins. Donc, logement aussi, accès au logement. Et la scolarité, c'est l'accompagnement des parents pour la scolarité de leurs enfants. Donc, surtout des personnes qui viennent s'installer, qui ne savent pas comment effectuer les démarches et qu'ils viennent ici chez nous pour qu'on les renseigne et on les accompagne.
Alors, il y a aussi un droit des étrangers.
Tout ce qui est demande de titre de séjour ou demande de nationalité ou de regroupement familial, tout ce qui concerne les droits des étrangers au tout niveau.
Quels sont les différents droits?
Alors, les différents droits, on revient toujours au même, c'est vraiment santé, logement et éducation nationale, ce qui concerne les enfants.
Est-ce qu'il y a aussi l'aide juridictionnelle? Alors, vous utilisez sous un autre terme.
C'est pas vraiment l'aide juridictionnelle, c'est plutôt les demandes auprès de la préfecture quand il s'agit d'une demande de première de séjour ou demande aussi de visa pour des soins, pour effectuer des soins sur le territoire français. Donc, c'est pas vraiment l'aide juridictionnelle, parce que l'aide juridictionnelle, c'est autre chose qui concerne les tribunaux. En fait, quand on va au tribunal, on fait une demande pour ne pas payer l'avocat. Donc l'aide juridictionnelle, c'est autre chose. Plutôt tout ce qui est administratif. C'est tout ce qu'on fait, c'est administratif.
Par exemple, un exemple concret d'une personne qui vient.
Une personne qui vient, par exemple, tout à l'heure, on a aussi une personne qui est européenne et qui a déjà travaillé ici, qui fait une demande de CMU. Et alors que cette personne européenne, le conjoint n'est pas européen, donc ce qui fait deux différentes de demandes. C'est-à-dire pour le monsieur et les enfants, on va demander la CMU, pour la madame, on va demander l'aide médicale d'État.
Comment faire pour bénéficier du PADE?
Alors, toute personne a le droit de se renseigner sur ses droits, c'est-à-dire quand elles viennent ici, on leur pose des questions pour mieux comprendre leur situation, parce qu'il y a une demande, il y a un besoin. Donc, les gens viennent pour une chose, mais ils ignorent qu'ils ont le droit d'autre chose. Donc nous, à force de poser des questions, on évalue le besoin de la personne et selon ses besoins, on l'oriente. Parce que des fois, ils demandent un truc, mais c'est pas ce qu'il leur faut par rapport à leur situation.
Merci Asna pour cet éclaircissement sur le PADE, plan d'accès aux droits et à l'égalité. Vous écoutez Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble. Philippe Brun, c'est l'interview qui va arriver dans quelques instants. On va parler de formation, les formations NUMA. Philippe Brun, il est directeur d'ailleurs de NUMA, cet organisme de formation. Et on parlera d'action à but d'insertion par l'activité économique, aussi par la formation. Et puis d'action aussi sur le contrat de ville et les actions Alpha, Jeunes et ASF. On l'écoute tout de suite. Nous nous trouvons aujourd'hui avec Philippe Brun qui est directeur de NUMA. Alors NUMA, il va nous en dire un petit peu plus dans quelques instants qu'est-ce que c'est. C'est des formations entre autres. Et nous nous trouvons donc exactement à côté de l'office de tourisme au 73 place du 25 août 1944. C'est là que se situent en fait les locaux de NUMA. Philippe Brun, bonjour tout d'abord.
Bonjour.
NUMA, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus qu'est-ce que c'est ?
NUMA au départ est un organisme de formation généraliste qui a œuvré dans le secteur... beaucoup de la fonction publique territoriale, qui a travaillé pas mal aussi avec tout ce qui est conseil départemental, conseil régional. Et on s'est, depuis quelques années, on va dire spécialisé dans tout ce qui est action à but d'insertion par l'activité économique, mais aussi par la formation directement. Et c'est à ce titre-là, je crois, que vous venez nous rencontrer, puisque nous avons deux nouvelles actions sur le contrat de ville de Carpentras en direction des publics que l'on appelle, et on n'en dira pas beaucoup, de sigle QPV, c'est-à-dire à viser, on va dire, prioritaire. C'est pour les quartiers prioritaires de la ville.
Et justement, on parle d'actions. Il y a deux actions, Alpha Jeunes et Action ASF. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ?
Alors ça, ce sont deux nouvelles actions que nous mettons en place cette année dans le cadre, encore une fois, du contrat de ville à destination d'un public jeune, parce qu'on a fait le constat avec d'autres opérateurs du territoire que les étapes, ce qui étaient des formations mises en place par la région, il y en avait pas mal sur Carpentras, avaient comme but de former des jeunes qui étaient un petit peu en décrochage scolaire. Il y avait deux, trois types de formations étapes. Et il y a tout un parterre de jeunes qui, en décrochage scolaire, qui en manque d'orientation pendant un an, se retrouvaient un peu laissés pour compte. Et c'est ce public-là que nous avons visé en priorité avec ces deux actions dont vous parlez. Une action qui s'appelle acquisition des savoirs fondamentaux, qui est une remise à niveau classique en maths, en français, avec une caractéristique qui est le retour vers l'emploi, puisqu'on a deux autres modules qui sont la connaissance du monde du travail, de l'environnement économique au sens large, et un module technique de recherche d'emploi, où là on est sur des vecteurs classiques qui permettent aux jeunes de se positionner sur un marché existant, sur un marché caché, puisque NUMA, nous étions aussi prestataire de Pôle emploi. Donc tout ça nous a amené à travailler avec la mission locale et avec Pôle emploi.
Je crois que vous êtes aussi en rapport avec le Tricadou. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien qu'il y a entre vous et le Tricadou ?
C'est une bonne question, parce que Carpentras a été un petit peu novateur sous l'impulsion de l'État, de la direction de la cohésion sociale, et a mis en place une plateforme linguistique il y a une dizaine d'années, avec une municipalité qui a été le fer de lance de ce projet. L'État, avec sa direction de la cohésion sociale, a bien joué le jeu, et nous étions quelques organismes de formation à rendre à la population un service, on va dire, à 360 degrés, qui permettait, avec un guichet unique qui était le centre social de Tricadou, de servir la population aussi bien sur de l'alphabétisation socialisante, des ateliers de développement personnel, qui était la première entrée, et puis sur de la formation diplômante, en passant des examens, ça c'est NUMA qui s'en charge, tel que le DELF. Alors c'est un sigle un peu compliqué, mais c'est un des premiers diplômes après le DILF qui permet à notre population d'aller vers, peut-être dans un second temps, une formation qualifiante, voire, ça a été le cas notamment sur un territoire un peu plus agrandi, puisque vous diffusez sur Monteux, on était aussi sur Monteux, vers des jeunes gens qui reprennent les études à la faculté, ce qui est pour nous vraiment, on va dire, une satisfaction énorme.
Quel est le public en fait de NUMA qui est touché prioritairement, et je crois aussi savoir que en fonction de leur échelle de niveau, on en a parlé peut-être tout à l'heure, ils peuvent ou pas intégrer NUMA. Est-ce que vous pouvez déjà nous éclaircir un petit peu tout ça ?
Oui, voilà, il y avait cette action acquisition des savoirs fondamentaux, et puis il y a des actions plus classiques au sein de la plateforme, telles que l'alphabétisation pour un public jeune, c'est-à-dire que, alors ça c'est un public allophone, c'est des jeunes migrants qui peuvent arriver, qui n'ont pas forcément suivi de cours de français. On s'est aperçu dans notre profession qu'il y avait de moins en moins d'alphabétisation classique. On a de plus en plus des gens qui ont profil français langue étrangère, FLE, parce que ayant suivi un enseignement dans leur pays d'origine. Donc on adapte maintenant la plateforme à ce public-là, relayé encore une fois par l'État, et là c'est vraiment une action importante, je voudrais qu'on fasse un peu peut-être le focus sur ça, et c'est peut-être un service qu'on rendrait à la population, de savoir que quand on va avoir à renouveler son titre de séjour, maintenant la préfecture, depuis un arrêté du 21 février 2018, demande un certain niveau de français. Alors oui, on a vu ensemble l'échelle des valeurs, la linguistique est un peu compliquée, mais pour vous faire simple, il faut quand même commencer un petit peu à comprendre l'écrit, savoir lire, voir un petit peu écrire pour avoir un titre de séjour de 10 ans. Alors, il y a une action spécifique pour ce public qui arrive, qui a signé un contrat d'intégration républicaine. Et là, c'est bien qu'on fasse la publicité pour cette action parce qu'elle est importante. Et c'est bien de savoir que l'État met en place ce type de formation aussi. Là, on a parlé plus précisément de deux actions qui sont nouvelles dans le cadre de la plateforme. Mais il y a des actions historiques. Donc, on a une action, on va dire, récurrente sur le territoire et la du comtat avenissin, qui est une action sur la laïcité. On s'est aperçu que, ok, ce public, on peut lui apprendre à lire, voire à écrire, et surtout à s'exprimer normalement en français, mais ce public avait aussi le droit de connaître ce qui était les droits, justement, et les devoirs du citoyen. Ce sont des formations que nous, encadrants, on va dire, professionnels de la formation, avons suivies, et on s'est dit qu'il fallait qu'elles soient aussi à l'encontre des publics des quartiers prioritaires pour que ces gens connaissent aussi alors la laïcité, c'est un concept assez compliqué, mais au moins des principes fondateurs de notre République. On les incite à réfléchir sur les symboles de la République, sur notre devise. Voilà, vous vous tournez, il y a un jeu de loi qu'on a mis en place, citoyen, qui est là pour valider les acquis de ces formations. Donc on fait ça aussi dans le cadre de la plateforme. On a une nouvelle action, et c'est intéressant d'en parler aussi cette année, qui est financée, alors elle, par le ministère de la Culture, qui est une ouverture culturelle pour ce public, ce qui est là aussi une nouvelle corde, on va dire, à porter à la plateforme, à l'arc de la plateforme, si on peut dire, puisqu'on a un financement qui nous est mis en place pour faire découvrir, le côté artistique que chacun a en soi, donc un développement artistique, mais également aller vers l'extérieur, aller vers un musée, découvrir une exposition, accompagner. Ça, je pense que c'est fondamental. C'est ce qui nous sort l'art, malgré tout, d'un quotidien et ce qui fait qu'on existe.
Il va y avoir des sessions de formation qui vont se dérouler sur des périodes condensées, justement, on peut peut-être en parler. Et il y aura aussi des formations, je pense, intensives.
C'est ça. Alors, il y a, au sein de la plateforme, encore une fois, des entrées et des sorties permanentes, ce qui est un terme un peu compliqué dans le milieu de la formation pour dire que vous venez, vous vous inscrivez et on vous trouve une formation adéquate. Mais il y a des formations qui démarrent à date et c'est notamment le cas de cette formation dont je vous ai parlé, acquisition des savoirs fondamentaux pour les jeunes et alphabétisation jeune et laïcité valeurs de la République qui là, vous vous présentez au centre social Le Tricadou et vous allez être engagé à participer dans une classe d'une douzaine de personnes à des modules qui sont en gros d'une centaine d'heures maximum. Donc c'est des formations intensives sur 2-3 demi-journées dans la semaine, ce qui donne une forme de régularité et d'apprentissage pour un public qui a pas toujours l'habitude de ces contraintes-là. Et cet apprentissage-là, on s'en est aperçu, est plutôt positif quand il est intensif.
Ce sont des formations qui sont toutes conventionnées.
Alors, bien sûr, ce sont des formations, quand vous dites conventionnées, qui ont un financement et qui, du coup, sont gratuites pour le public. C'est très bien de le relever. Encore une fois, c'est un service qui est rendu à la population et il faut le savoir, que ce soit la ville ou que ce soit l'État, un petit peu moins la région et un peu plus le département, mettent en place pour leurs administrés. Dernier mot sur toutes ces formations qui, j'espère, ont été assez présentées clairement. Le côté novateur de la plateforme est qu'on est dans un véritable parcours de l'apprenant avec différents niveaux qui sont enseignés et donc différents niveaux possibles de réception de notre public et la possibilité, et ça c'est tout nouveau, de pouvoir choisir certains modules à l'intérieur de nos formations tant et si bien qu'on peut aller vers quelque chose de très, allez, 3-4 jours de, ou 3-4 journées semaines de très conséquents pour, à l'échelle d'un apprenant. Quoi. Voilà.
Donc Philippe Brun, donc, je rappelle, vous êtes directeur de NUMA. Pour vous contacter, pour profiter peut-être des formations, pour avoir toutes les infos, comment on peut faire? Du coup, on va peut-être le rappeler.
Mais bien sûr, je vais vous donner mon numéro direct, c'est le 06 09 88 32 66. Vous n'hésitez pas à appeler. Vous pouvez très bien appeler aussi le guichet unique qui est le centre social Le Tricadou. Alors là, vous tapez sur un quelconque moteur de recherche et vous avez toutes les informations. Ils ont un nouveau site qui vous permet de comprendre directement ce que j'essaye de vous expliquer, à savoir les différentes actions de la plateforme. Et puis, je vais vous donner mon mail, numa2019@free.fr. Si vous voulez nous contacter, on vous répondra dans la journée.
Merci Philippe Brun, donc je rappelle le directeur de la plateforme NUMA. Donc merci beaucoup, puis à très bientôt peut-être sur les ondes d'RTVFM.
Bien sûr, quand vous voulez, je suis bavard. Là, vous allez me couper, mais je viens quand vous voulez.
Et nous arrivons au terme de l'émission Quartier Libre de ce mois d'octobre, Théo. Merci d'avoir donc été parmi nous pour la réalisation de cette émission.
Avec plaisir.
On va finir par un interview de Leti Molina, Christine Leti Molina de la société Citeo. On va parler emballage, on va parler recyclage. Et oui, vous savez que depuis le 1er octobre maintenant, si vous êtes habitant de la Cove, tous les emballages sans exception se trient dans les communes donc, du bassin de vie de la Cove. Et à cette occasion, donc, on va écouter tout de suite l'interview de Christine Leti Molina qui nous explique un petit peu la société Citeo et qu'elle est aussi partenaire des collectivités pour justement accompagner au 100% recyclage. C'est donc l'interview qu'on va retrouver dans un instant. Quant à nous, Théo, on se retrouve très vite sur l'antenne d'RTVFM pour une prochaine émission Quartier Libre ou Parents Autrement ou directement sur l'antenne de votre radio. A très vite, Théo, merci.
A bientôt.
Alors, je suis là pour représenter Citeo. Citeo, c'est un éco-organisme. Nous sommes effectivement le partenaire de toutes les collectivités en France qui ont la compétence du tri et du traitement du tri, hein, de la collecte et du tri. Nous, notre mission, c'est d'abord d'économiser la ressource en France, c'est-à-dire de moins venir puiser des ressources naturelles, de moins venir chercher du pétrole et de plus réutiliser, de trouver des solutions pour, à partir de nos emballages eux-mêmes pour faire d'autres produits. Qu'est-ce qu'on fait pour cela? On travaille beaucoup sur les matériaux, on travaille sur les nouvelles technologies, on travaille sur l'éco-conception auprès des entreprises qui mettent sur le marché les emballages et le papier, de façon à ce qu'ils mettent le juste emballage, pas de sur-emballage, et que cet emballage, eh bien, bien sûr, il finance la fin de vie de cet emballage auprès des collectivités qui sont en charge de les collecter à la suite du geste de tri de l'habitant. Alors, merci Monsieur le Président, Monsieur Rey, et merci Gérard, je vous appelle Gérard depuis le temps qu'on travaille ensemble, de nous accueillir aujourd'hui. C'est un grand jour. D'abord, c'est un grand jour parce qu'on va passer à 100% de tri des emballages et des papiers à partir de demain. C'est nous, notre accompagnement, Citeo, jusqu'à 2022, nous allons accompagner tout le territoire français pour monter en compétences et pour pouvoir permettre à tous les habitants de trier tous les emballages. Où en sommes-nous au niveau de la France? Nous sommes à peu près à 29 millions d'habitants cette année qui pourront le faire. Parmi ces 29 millions d'habitants, il y aura la Cove. Et dans le Sud-Est, c'est presque un habitant sur deux qui pourra le faire. Tout le 06 est parti. Le 13, il y a un petit bout du 13 qui est parti avec le Pays Salonnais. Le 04 et le 05 viennent de partir. 30% du Vaucluse partent, dont la Cove. Et je vous félicite. Et puis la Corse est partie aussi, puisque la Corse fait partie de mon périmètre. Je voudrais surtout souligner que ça n'arrive pas par hasard. C'est un travail de longue haleine. Ça fait de nombreuses années que nous travaillons ensemble. D'abord à améliorer les points d'apport volontaires, à améliorer aussi les bacs jaunes qui doivent être mis au plus près de l'habitant pour lui faciliter le geste de tri. Et aujourd'hui, bah, on ouvre ce bac jaune et on lui permet de prendre tous les emballages. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre tous les plastiques. Nous ne prendrons pas les arrosoirs, les poupées, etc. Mais nous prendrons tous les emballages, qu'ils soient en plastique, puis ce que nous prenons d'habitude, c'est-à-dire les métaux, les cartons, le verre à part, bien sûr, puisque c'est nous qui nous en occupons aussi, les barquettes, etc., les pots de yaourt qui vont arriver, les films plastiques autour des bouteilles, tout ça, nous allons en prendre, mais nous avons une médiatrice du tri avec nous qui va nous en parler. Je tiens à dire que cet excellent travail de la COV repose sur deux piliers essentiels. Une politique très volontariste depuis plusieurs années des élus et une équipe technique. Et je remercie, il y en a beaucoup qui sont là, que ce soit les ambassadeurs de tri, les directeurs la directive des déchets, etc., une équipe technique qui est vraiment au point et qui sait toujours déposer les dossiers chez nous au bon moment et déposer des dossiers robustes, c'est-à-dire qui vont porter leurs fruits. Et les fruits sont là, effectivement, puisque 70 kilos de collecte sélective pour la COV, c'est l'équivalent de la moyenne nationale. Vous pourriez me dire, il n'y a rien d'extraordinaire si le Français moyen recycle 70 kilos. Bah si, puisque dans notre région, pour la région PACA, nous n'en recyclons que 51 kilos. Pour le département, nous n'en recyclons plus que 56 kilos. Vous voyez que la COV est dans les bons élèves. Et là, on va ouvrir le bac jaune, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup plus de facilité. Ça va devenir plus simple. Les gens vont plus poser de questions. À partir du moment où c'est un emballage, je mets le verre dans la colonne de verre et tout le reste, je mets dans le bac jaune. Et bien, c'est ça qui va apporter encore de la performance, qui va nous permettre de maîtriser les coûts. Parce que c'est très important que ces emballages n'aillent pas à l'enfouissement, n'aillent pas à l'incinérateur, mais on cherche à valoriser la matière pour pouvoir, je vous disais, moins prendre de matières premières et puis plus faire des emballages à partir des emballages qui nous sont redonnés. Il faut maintenant, vous l'avez vu, on est dans une période où il faut accélérer maintenant ce tri et ce recyclage. Je tiens à saluer la présence du groupe PAPREC avec Rémi Clénet qui est ici, puisqu'il représente le centre de tri avec lequel vous avez signé un marché. Et qui est un des centres de tri que nous avons, modernisé nous aussi, nous avons accompagné dans le cadre d'appel à projet, et qui place en fait des trieurs de tri optique, parce que toutes ces résines de plastique, tous ces nouveaux plastiques, ces pots de yaourt, ces films, ces barquettes, eh bien il faut des trieurs particuliers, techniques, donc PAPREC a installé dans ces centres de tri de façon à les détecter, parce qu'on ne peut pas les détecter à l'œil nu. Voilà ce que c'est la modernisation et la montée en puissance de ce tri, ce recyclage en France. Et d'ici 2022, on veut que 67 millions de Français puissent pouvoir trier tous ces emballages. Tout ça ne servirait à rien, et là j'attire l'attention de la presse, si l'habitant n'effectue pas son geste de tri. Personne ne rentrera dans la cuisine, dans votre cuisine, dans ma cuisine, dans la cuisine de l'habitant, ni dans sa salle de bain pour faire le tri à sa place. La collectivité met des moyens, elle a mis des bacs, elle a mis des camions, elle fait de la sensibilisation. On a modernisé des centres de tri. Il y a un centre de tri qui est très nouvelle génération qui va accueillir ces emballages. Eh bien, il faut que l'habitant ait confiance et nous donne ces emballages pour que nous puissions retransformer la matière derrière. Donc, c'est très important d'insister. Chacun doit faire sa part. Les ambassadeurs de tri, donc, ou médiateurs du tri, sont des métiers très importants puisqu'ils viennent auprès des habitants expliquer la consigne de tri. Elle va être beaucoup plus simple, on a tendance à dire c'est compliqué, ça change tout le temps. Bien là, je dirais ça change pour la simplification. Et c'est ça qui est le plus important pour le 1er octobre ici. Je tiens à vous dire que les progrès de performance ont été forts. Je vais vous donner rendez-vous dans un an, messieurs les élus et à la population. Nous savons que quand on fait cet effet d'entraînement, de facilitation du geste, c'est jusqu'à 25 ou 30% de plus qu'on peut espérer en un an à 18 mois. Et c'est bien sûr des soutiens financiers que nous vous apporterons en plus pour pouvoir le réaliser, et des coûts en moins pour les habitants et pour la collectivité. Donc voilà, bravo encore pour être les premiers dans les premiers de la région et les premiers particulièrement du Vaucluse.
Vous venez d'écouter Quartier Libre, une émission réalisée par les bénévoles des centres sociaux et culturels du Tricadou et de Ville-Marie en partenariat avec le Commissariat Général à l'égalité des territoires, la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venessin et la ville de Carpentras.